Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian et je suis heureux de vous retrouver. Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique. Nous pouvons dire que les trois piliers de la vie chrétienne sont la foi, l'amour et l'espérance. Dans la série que nous continuons aujourd'hui, nous réfléchissons au sens de ces trois qualités. En nous penchant sur la première lettre de l'apôtre Paul, écrite à l'église de Thessalonique. D'abord, Magali va lire les trois premiers versets de cette lettre.
De la part de Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons constamment à Dieu toute notre reconnaissance pour vous, tout en faisant mention de vous dans nos prières. Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père.
Merci Magali. Étienne nous rejoint sur le plateau d'Espérance aujourd'hui. Il nous accompagne dans l'étude de ce texte et nous parlons actuellement de l'espérance. Étienne, bonjour.
Bonjour Yann et bonjour à tous. La dernière fois, nous avons expliqué que notre espérance en Jésus-Christ nous aide à endurer les difficultés et les afflictions de la vie présente, car nous savons qu'un avenir meilleur s'ouvre devant nous. En effet, un jour, nous ressusciterons d'entre les morts et dès lors, nous vivrons éternellement avec Jésus.
Et de quoi allons-nous discuter aujourd'hui?
En lisant la lettre de Paul aux Thessaloniciens, nous constatons qu'il répond à quelques questions concernant le retour de Jésus-Christ. Ce sont les questions que l'église de Thessalonique ont posées et que Timothée, un collaborateur de l'apôtre Paul, a rapportées à ce dernier, suite à sa visite destinée à encourager les chrétiens de Thessalonique. Nous allons nous pencher sur ces mêmes questions, car elles sont pertinentes de nos jours encore. Cédons d'abord la parole à notre lectrice pour la lecture de 1 Thessaloniciens du chapitre 4, au verset 13 jusqu'au chapitre 5, verset 11.
Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sécurité », alors une ruine soudain fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils n'y échapperont pas. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. En effet, ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayons pour casque l'espérance du salut. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà.
Merci. L'apôtre Paul aborde trois questions dans ces versets et nous les reprendrons brièvement une à une. Mais pour commencer, reformulons-les. D'abord, que se passe-t-il pour ceux qui meurent avant le retour de Christ et la résurrection? Ensuite, Est-il possible de savoir quand exactement le Seigneur Jésus reviendra? Et enfin, comment devons-nous attendre le retour de Christ?
Commençons alors avec la première question. Que se passe-t-il pour ceux qui meurent avant le retour de Jésus?
Oui, cette question semble avoir préoccupé les croyants en Thessalonique. Ils croyaient probablement que le retour de Jésus était imminent et puis le temps a passé et certains d'entre eux sont morts. Des chrétiens se sont alors demandé ce qu'allaient devenir ceux qui étaient décédés. Ils s'inquiétaient peut-être de savoir s'ils allaient participer au retour de Christ et à la résurrection.
Et Paul, qu'a-t-il répondu?
Paul affirme très clairement que les personnes mortes participeront au retour de Jésus-Christ. Car c'est lors du retour de Jésus-Christ que les morts ressusciteront et leur âme habitera un nouveau corps créé pour vivre dans leur nouvelle création et l'éternité. Alors, le véritable croyant qui meurt avant le retour de Jésus n'a aucun souci à se faire. Nous pouvons nous lamenter du départ de personnes qui nous sont chères, le deuil est normal. Toutefois, l'espérance de la résurrection que nous possédons en Christ est vraie pour tous et elle nous rassure. Nos frères et sœurs bien-aimés, même s'ils nous ont déjà quittés, participeront eux aussi au retour de Jésus et à la résurrection avec nous. Nous n'avons pas à nous inquiéter de ce qu'il adviendra d'eux. Ensuite, nous pouvons nous poser la question que voici. Où sont nos frères et sœurs qui sont morts? Et que feront-ils en attendant le retour de Jésus?
Avez-vous des réponses à apporter?
Il faut être prudent à ce sujet, car la Bible n'apporte pas trop de précisions sur ce point. Il s'agit d'une question bien mystérieuse. Je voudrais affirmer deux choses qui me semblent claires. Tout d'abord, à la mort d'une personne, l'âme se sépare du corps qui meurt. Ainsi, l'âme continue à vivre et elle attend la résurrection, qui est le moment où elle sera revêtue d'un nouveau corps. Il est difficile de dire où se trouvent les âmes des personnes déjà mortes, mais nous avons l'assurance que les âmes de ces croyants sont en paix et se trouvent dans la présence de Dieu. Je pense qu'il vaut mieux s'abstenir de trop de spéculations à leur sujet.
Oui, le plus important est de savoir que les morts ressusciteront au jour du retour de Jésus-Christ. Mais est-il possible de savoir quand ce jour arrivera?
Non, nous ignorons quand ce jour arrivera. Paul compare le retour de Jésus à l'arrivée d'un voleur la nuit. Et à ce propos, il s'appuie sur l'enseignement du Seigneur Jésus lui-même. Le voleur, en effet, n'annonce jamais d'avance quelle nuit il va passer pour dérober ses victimes. Nous ne pouvons donc pas prédire à quel moment un voleur viendra. Et de la même manière, nous ignorons quel jour et quelle heure le retour de Jésus aura lieu. Donc je voudrais appeler chacun à la prudence et vous exhorter à vous abstenir de toute spéculation concernant d'éventuelles dates sur le retour de Jésus. N'écoutez pas non plus les soi-disant prophètes ou enseignants qui prétendent connaître le moment précis du retour du Seigneur. Si Paul ignorait quand Jésus va revenir, pourquoi quelqu'un d'autre le saurait? Et surtout, si Jésus ignorait quel sera ce jour, et s'il a déclaré qu'aucun d'entre nous ne pouvait pas le savoir, alors vraiment, il faut se méfier des personnes qui affirment connaître ce jour.
Merci Étienne d'être si clair sur ce point. La dernière question que nous avons énoncée en début d'émission est celle-ci. Comment mener sa vie en attendant le retour de Jésus-Christ?
Oui, il faut l'admettre. Si Paul ne se préoccupait pas de savoir quand Jésus reviendra, une autre question toutefois occupait toutes ses pensées. En effet, la voici. Il affirme que nous devons nous tenir prêts pour le jour du retour de Jésus. Et l'illustration du voleur est pertinente. Nous ignorons quelle nuit le cambrioleur risque de surgir chez nous. De ce fait, chaque nuit, nous devons prendre nos dispositions. Nous devons nous assurer que la maison est bien protégée et que les portes et les fenêtres soient fermées, que le gardien est bien là et qu'il se montre vigilant. En quelque sorte, il faut mener sa vie avec la pensée toujours présente de mettre tout en œuvre pour empêcher qu'un voleur nous cambriole. De la même manière, le chrétien vit avec la pensée que Jésus peut revenir d'un instant à l'autre. Alors, à tout moment, il doit se tenir prêt pour le recevoir.
D'accord, je comprends bien. Mais concrètement, que veut dire être prêt pour le retour de Jésus?
Pour vous répondre, je vais lire les paroles que l'apôtre Paul a écrites. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres.
Ainsi donc l'apôtre Paul oppose le jour à la nuit, la lumière aux ténèbres. Mais s'agit-il là d'images? Que signifie-t-elle?
Oui, par ces images, Paul établit un contraste entre la vérité et le mensonge, le bien et le mal. Ainsi, en attendant le retour de Jésus, le chrétien est appelé à mener sa vie à la lumière des vérités contenues dans la Bible. Ces vérités et ces instructions, cette sagesse et ces avertissements, ces encouragements nous conduiront à reconnaître ce qui est juste et à pratiquer le bien. Le chrétien est appelé à rejeter le mal qui vient des ténèbres. La nuit, ici, est l'image du mensonge, de ce qui est maléfique et méchant. Les ténèbres peuvent désigner l'idolâtrie sous toutes ses formes, les pratiques occultes aussi, la sorcellerie et la divination. Cependant, les ténèbres représentent également toute idée, toute aspiration ou influence mondaine qui s'élève contre la vérité divine et conduit vers la pratique du mal et de l'immoralité, de l'injustice et de toute conduite destructrice. Pour conclure, en attendant le retour de Jésus et pour être prêts à l'accueillir, nous devons apprendre à vivre selon les desseins et la volonté de Dieu, tel qu'il nous les révèle dans sa parole, la Bible.
Et Paul parle également d'enfiler la cuirasse de la foi et de l'amour, et d'avoir pour casque l'espérance du salut.
Oui, et nous retrouvons ici les trois piliers de la vie chrétienne dont nous parlons en ce moment. Le fait que l'apôtre se répète souligne leur importance. En attendant le retour de Jésus, nous devons vivre par la foi, connaître l'amour et garder dans notre cœur l'espérance. Ces trois qualités caractérisent tout chrétien authentique. Cependant, dans ce verset, Paul emploie des images militaires car il mentionne la cuirasse et le casque. Ce sont deux éléments de l'armure que le soldat portait à l'époque. La cuirasse protégeait sa poitrine et le casque, sa tête. C'est un rappel que le chrétien, en attendant le retour de Jésus, est impliqué dans un combat spirituel. L'attente est donc difficile. Nous devons faire face à divers ennemis spirituels. Pour endurer ces conflits, cette guerre et en sortir vainqueur, pour persévérer jusqu'au retour de Jésus-Christ, il est essentiel que nous grandissions dans la foi, en amour et en espérance.
Merci Étienne. La fin de notre émission approche et je pense qu'il est bon de conclure cette série sur cette note importante. Étienne, nous vous remercions pour votre participation enrichissante tout au long de ces émissions.
Tout le plaisir est pour moi. Je dis à tous au revoir.
En attendant notre prochaine émission Espérance aujourd'hui et le début d'une nouvelle série, je vous dis au revoir et que Dieu vous bénisse.